rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la plus belle.
Bonsoir à tous et à tous.
À toutes et à tous.
Ah, j'ai dit à tous et à tous.
Ouais, parce que là, c'est encore pire, tu fais une doublette...
Machiste. Ouais.
Ah là là.
Toutes mes excuses, ça commence bien. Nous sommes donc le jeudi 8 septembre 2022. Vous êtes à l'écoute de ce Canu Info du jeudi. J'espère que vous allez bien. De quoi allons-nous parler ce soir? Dis-moi plein de choses.
Ah, c'est moi qui dois parler en plus.
Oh, bah écoute, allez, un petit effort, allons-y.
Bah, je sais pas.
Tu sais pas.
Il y a une intro, après une rubrique ni Dieu ni maître, une grosse rubrique internationale. Je détaille pas plus parce qu'il faut que vous ayez encore la surprise. Ah bah non, sinon c'est pas drôle. Allez, c'est toi qui ouvre en plus.
Oui, et on va ouvrir quand même par le sujet un petit peu qui m'a paru important aujourd'hui, cette semaine, mais déjà le mois dernier, puis le mois encore d'avant, puis ce sera encore le cas le mois d'après. Police partout, justice nulle part, comme d'habitude, hein, bien évidemment. Alors, hier était présentée en Conseil des ministres la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, que vous pouvez voir écrit dans la presse écrite, évidemment, l'OPMI, parce que c'est beaucoup plus rigolo de mettre des petits noms comme ça que de parler de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est un texte qui date du mois de mars. Il y avait à la base 32 articles, et puis finalement, il n'y en aura plus que 15 hein, pour l'instant. Alors, c'est un projet de loi qui va être débattu au Parlement à partir du mois d'octobre. Ça prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires de budget en 5 ans, hein, c'est pas rien. Et donc on apprend donc avec ce texte que la proposition donc comprend une augmentation des effectifs supplémentaires des forces de l'ordre, 8500 postes de policiers et gendarmes en 5 ans en France, dont 3000 dès 2023. J'espère que vous êtes contents. Alors on apprend donc qu'il y aura 11 unités de forces mobiles et 200 nouvelles brigades de gendarmerie qui vont permettre de doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain, apprend-on, d'ici 2030. Donc, hein, c'est M. Macron directement hein, qui est à la manœuvre sur cette augmentation des forces de l'ordre.
Et tu crois que si on double le nombre de policiers sur le terrain, on double le nombre de morts dû à la police?
Je ne sais pas. Nous verrons peut-être en 2030 hein, ce qu'il en est avec l'augmentation progressive de ces bleus dans la rue et dans les campagnes. Alors, il y a 11 unités de force mobile, comme ça s'appelle, qui vont rester à demeure, comme on dit. J'emploie un vocabulaire adapté. Alors, il va y en avoir à Lille, coucou à vous, Montpellier, Perpignan, Nice et Marseille, et à Lyon, parce que oui,
on a, bah oui,
et oui, bah oui, il faut bien que ça, c'est vachement bien. Alors il paraît que d'ailleurs les députés Renaissance sont déjà tout heureux de savoir que à Lyon, nous avons le droit à notre petite unité à nous, hein, c'est quand même vachement plus sympa. Alors pour ce qui est des gendarmes, il va y avoir des réunions, hein, au niveau des élus ruraux et des préfets, tout au long du mois de septembre, pour savoir comment on va pouvoir placer, hein, ces petits gendarmes, et qui va y avoir droit, qui n'y aura pas le droit. Il y a bataille a priori, hein, quand même, pour en avoir, parce que c'est quand même un truc, hein, que les élus aiment bien. Bon, il n'y a pas que la droite, hein, d'ailleurs, hein, qui aime bien, ou l'extrême droite, hein, qui aime bien avoir de la flicaille. Alors évidemment, comme je vous le disais, c'est un sujet d'actualité, puisqu'on a encore des morts, hein, par un arme à feu dû à la police. On a appris donc sur les 26 320 refus d'obtempérer, qui sont des chiffres donnés en 2021 par le ministère de l'Intérieur, 201 fois policiers et gendarmes ont tiré, ce qui cause évidemment des morts. Alors pour monsieur Darmanin, qui était l'invité de CNews le 1er septembre dernier, donc on peut dire que sur CNews, hein, il est à domicile, hein, monsieur Darmanin, hein, il est tranquille, il n'y a pas de souci, hein, il explique que les policiers et les gendarmes n'utilisent leur arme que dans 0,5% des cas de refus d'obtempérer. Donc pour lui, c'est un chiffre statistiquement extrêmement réduit vu les risques. Donc c'est bien, c'est pas beaucoup, hein, pour monsieur Darmanin, ce petit 0,5%. Alors le chiffre exact, hein, qui est ressorti et que j'ai lu dans la presse, c'est 0,76% des cas où on te fait tirer dessus lors d'un refus d'obtempérer. Alors on va dire la vérité, hein, c'est qu'effectivement, et ça c'est un argument qui est avancé par les personnes qui défendent la police, les refus d'obtempérer ont bien augmenté, hein, entre 2010 et 2020 de plus de 46%. 46,6 exactement. Donc effectivement, vous allez me dire, bah c'est normal, s'il y a plus de refus, il y a plus de situations à sortir son arme. Sauf que tout ça, c'est un argument un petit peu facile. On rappelle qu'il y a une nouvel article, hein, qui est L435-1, hein, qui est entré en vigueur et qui permet plus facilement aux Bleus de sortir leur arme. C'est-à-dire que cette question de légitime défense, c'est une question qui était réclamée, hein, par les syndicats de police, comme Alliance par exemple, réclamait le fait d'avoir une possibilité de pouvoir tirer plus facilement dans le cadre d'une légitime défense. Sauf que ce qui est amené là, c'est qu'en fait, ça va très très vite, une légitime défense. Et donc, en une seconde, deux secondes, un policier, un gendarme doit aujourd'hui pouvoir dire s'il est en légitime défense et donc à l'occasion de tirer. Avant, comme il avait moins l'occasion de le faire, il réfléchissait un chouïa, vous voyez. Ce qu'on sait, c'est que cette nouvelle possibilité, ce nouvel article a un petit peu quand même augmenté le nombre de tirs. Alors là, on vous parle que de refus d'obtempérer, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose de très très précis, hein, quand même, dont je suis en train de vous parler. Mais on a vu avec ce dernier décès que la légitime défense, elle a bon dos, puisque aujourd'hui la police, elle est filmée beaucoup plus qu'avant, et que la dernière vidéo semble quand même assez facilement démontrer que le policier n'était pas devant la voiture, mais bien à côté.
Et qu'il ne risquait a priori rien, le mec voulait juste s'enfuir. Alors c'est l'impression que ça donne, mais c'est quand même une forte impression, hein.
Ouais, alors ce qu'il faut évidemment à chaque fois relever, c'est que il y a deux choses, hein, dans le refus de s'arrêter, hein, c'est ça, hein, c'est un délit de fuite. C'est qu'il y a deux cas de figure, dont j'ai pas la statistique sous les yeux, je sais pas si elle existe d'ailleurs, c'est qu'il y a des cas où, très clairement, la personne, elle fonce sur les flics ou les gendarmes.
Donc là, c'est la vraie légitime défense.
Alors, en tout cas, il y a un risque d'accident ou de décès. Et puis, il y a le cas où la personne essaye de s'enfuir, ce qui n'est pas exactement la même chose. Parce qu'effectivement, peut-être qu'elle peut renverser un flic ou un gendarme, mais en tout cas, ce n'est pas l'idée première. Donc, ce sont des situations extrêmement différentes. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de détails sur à chaque fois ces problématiques qui arrivent, hein. Je vous ai dit 26 320 refus d'obtempérer, donc
surtout qu'on a l'impression, voilà, qu'ils n'ont jamais appris à tirer, parce que ils pourraient tirer dans des parties non vitales, ils pourraient tirer dans les roues de la voiture, ils pourraient, il y a plein d'autres choses, actions possibles, et on a l'impression qu'ils choisissent plutôt celle-là. Donc on peut constater, hein, il y a un certain nombre de décès par les forces de l'ordre, que la peine de mort n'a pas été supprimée en France, sauf qu'on passe plus devant la justice, on passe devant la police. Et c'est un peu ça qui l'impression qui est donnée, en tout cas régulièrement, et notamment par cette vidéo qui est sortie aujourd'hui, et qui est à charge contre les policiers quand même.
Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que l'article L435-1, c'est celui du Code de la Sécurité Intérieure, bien évidemment. En tout cas, il y a en tout cas la police aujourd'hui tire plus que les gendarmes hein, quand même. On a 157 tirs contre 44. Alors moi j'ai lu deux interventions sur le site de France Info, celui du directeur de la recherche au CNRS et spécialiste des questions de police et de sécurité. Nous expliquons, il s'appelle Sébastien Rocher, et il dit sur les 0,5 ou donc les 0,76, hein, donc ce 0,5 défendu par Monsieur Darmanin, il répond c'est un chiffre énorme. Si vous aviez un risque de mourir d'un sur 100 quand vous montez dans votre avion, cela voudrait dire que vous avez 1% de chance de vous écraser, ce qui serait extraordinairement important. Le ministre essaye de minorer ce risque politiquement, mais en faisant cela, il montre qu'il néglige la valeur de la vie des citoyens. Je trouve que c'est bien que ce soit quelqu'un du CNRS qui dise ce que beaucoup de militants contre les violences policières pensent. Et une autre intervention dans ce même article sur France Info de Vincent Brengart, qui est avocat au barreau de Paris, spécialiste des violences policières. Il dit il s'agit d'un sujet majeur, il y a des décès sur la voie publique. Ça aussi, c'est un autre argument qui est amené par les militants et les militantes contre les violences policières. Et donc là, on a des gens qui sont comme des citoyens, a priori avocats, chercheurs. Cette ultra-gauche dont on parle, ou des vilains anarchistes, c'est des gens qui peuvent être reconnus dans leur spécialité et dans leur fonction professionnelle. On a là des arguments qui sont quand même majeurs, c'est-à-dire tu peux te faire flinguer sur la voie publique. Nous, en tout cas, on a bien aimé, en tout cas moi j'ai bien aimé les interventions de Laurent Martin de Frémont, qui n'était pas très connu jusqu'à présent, mais maintenant grâce aux réseaux sociaux et à son passage sur BFM TV, il est extrêmement connu. Il est secrétaire départemental du syndicat Unité CGP, donc police, hein, et il a donc soutenu à maintes reprises dans cette interview ce qui s'est passé donc lors de ce tir sur la voiture et donc face à cette vidéo. Laurent Martin, tu es donc très très connu maintenant par les citoyens qui connaissent bien ton argumentation, c'est très intéressant.
Alors on passe à la rubrique « Ni Dieu ni Maître » que j'ai glissé aujourd'hui autour des chrétiens. Hein. Des fois c'est plus mixte, plus mélangé, mais là non. Je vais parler de ces chrétiens homophobes et qui ont le droit d'être homophobes aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Il y a plein d'actions en justice qui l'ont démontré, mais là, la dernière en date, c'est celle du magistrat Reed O'Connor. C'est un tribunal fédéral du Texas, alors qui est connu pour avoir déjà pris plusieurs décisions hostiles contre notamment la loi sur l'assurance médicale pour tous et toutes de l'ancien président Barack Obama, qu'on appelait l'Obamacare. C'est un juge conservateur, un magistrat plutôt conservateur, hein, et qui veut que les pauvres continuent de crever parce qu'ils pourront pas se soigner, grosso modo. Alors là, c'est un sujet sur l'homophobie et sur ça, sur cet Obamacare, puisque la loi, donc l'Obamacare, impose aux assureurs privés de rembourser certains soins préventif et pas seulement curatif. Et la loi laisse aux autorités sanitaires le soin de définir quels soins préventifs doivent être remboursés. Et les autorités ont inclus en 2020 les médicaments dits PrEP. Donc la PrEP, c'est quoi ? C'est des comprimés qui empêchent la transmission du VIH, du SIDA, qui sont recommandés par les autorités sanitaires, et qui permet de pouvoir avoir des rapports non protégés, quasiment sans risque. Voilà le truc de ce qu'est la PrEP. Alors plusieurs personnes et deux entreprises ont récemment saisi la justice pour contester, entre autres, la couverture de ces médicaments préventifs au nom de leurs convictions religieuses. Alors on rappelle, hein, donc du coup les entreprises prennent des mutuelles pour leurs salariés. Ces mutuelles vont donc, rembourser ces soins préventifs, cette PrEP. Ces personnes et surtout ces deux entreprises ne veulent pas que leur mutuelle rembourse la PrEP à leurs salariés. Pourquoi ? Parce que comme le rappelle le juge O'Connor, ça les rend complices de comportements homosexuels. Parce que c'est essentiellement utilisé par les homosexuels, mais pas que, ceci dit. Mais ça, ils n'ont pas tout compris non plus. Donc, grosso modo, ce qu'ils laissent entendre, c'est que pour eux, un homosexuel ne doit pas être couvert par la PrEP, ne doit pas prendre de PrEP, il doit prendre des risques. S'il a le sida, c'est bien fait, il doit en crever, point final, stop. Voilà, Grosso modo, le discours caché derrière la décision de ce juge américain, de ces personnes qui sont allées en justice et des deux entreprises. Voilà. Et donc ce juge américain, Reed O'Connor, a donné raison à ces entreprises et à ces plaignants. Donc, quelque part, il justifie, il autorise ces employeurs chrétiens à être homophobes. Alors, l'administration Biden a réagi en rappelant qu'elle était, elle, plutôt dévouée à la protection de l'accès de tous les Américains à des soins préventifs gratuits. Ça coûte rien de le dire, mais elle n'a pas ce pouvoir-là, localement, d'imposer ça comme ça. Mais bon, elle le rappelait. Il y a Nancy Pelosi aussi, hein, qui est la chef démocrate de la Chambre des représentants, qui a dit la même chose, qui est allée plus loin, qui a dit même « Cette décision dérangeante relève ouvertement de l'homophobie ». Oui, ben ça, c'est très visible, elle a bien raison. Elle constate cette dérive homophobe et elle la raccroche d'ailleurs à ce qui a été, ce qui est passé auprès de la Cour suprême, hein, sur la fin du droit à l'avortement systématique, hein, aux États-Unis d'Amérique. Et elle a bien raison puisque c'est les mêmes discours religieux portés par ces religieux qui font reculer le droit des femmes et le droit des homosexuels. Voilà, on en est là. On rappelle que la PrEP est quand même efficace à 99% et qu'aux États-Unis, seuls 23% des personnes l'utilisent, qui pourraient en bénéficier majoritairement à risque, etc. Voilà. Donc ça démontre une nouvelle fois, hein, que ces fameuses clauses de conscience, qui sont en général liées à une conviction religieuse, sont finalement des comportements qui ont des conséquences néfastes et particulièrement dans le domaine de la santé, comme ça vient de l'être démontré. Alors, deuxième exemple, cette fois-ci qui n'a pas une conséquence néfaste, mais qui montre que l'homophobie est autorisée, acceptée, validée aux États-Unis d'Amérique. Cette fois, on va aller au Kentucky. Alors, c'est pareil, Kentucky, hein, c'est comme le Texas, c'est un État majoritairement dominé par la religion. Et bon, voilà, on est coincé dans une espèce d'Amérique qui ressemble au 18e siècle, au 17e siècle, mais quand les colons religieux sont arrivés, mais pas du tout à un État moderne. Alors, ça date de novembre 2019. Une photographe a intenté une action en justice pour dénoncer une ordonnance de la ville de Louisville, donc dans ce fameux Kentucky. La ville voulait, en fait, elle est payée par la ville pour faire des photos, elle a pas voulu, elle a refusé, et la ville a fait passer une ordonnance qui oblige, quand on a un contrat, à faire des photos, même si c'est un mariage homosexuel, puisque c'est ce qui était le cas. Et il y a quelques jours, la Cour fédérale a donné raison à la plaignante, à la croyante. Grosso modo, c'est clair, si ça va à l'encontre de vos convictions, vous n'êtes pas obligé de respecter finalement les règles qui ont été édictées par la ville. Et vous avez le droit, le rendu va encore plus loin, d'écrire sur votre site internet que vous refusez d'être photographe lors de mariages homosexuels. Grosso modo, le jugement dit vous avez le droit d'être homophobe et de l'afficher. C'est quand même un beau recul, une belle horreur et une belle promesse de discrimination. Alors ces chrétiens sont adeptes, hein, de cette discrimination contre les gens qu'ils n'aiment pas. Là c'est elle, puisque c'est une photographe. Alors elle était défendue par l'Alliance Defending Freedom, une association qui défend religieuse, un peu traditionnaliste, très traditionnaliste, qui défend tout ce qui est croyance religieuse doit être prioritaire sur tout ce qui est obligatoire, notamment dans la santé. Donc vous n'êtes pas obligé de soigner, si c'est un homo, vous pouvez le laisser crever. Enfin, ils se battent pour des choses comme ça, des horreurs comme ça. Voilà. Alors faut savoir que c'est pas la seule affaire dans le genre, que tout ça existe aux États-Unis parce qu'il y a le premier amendement de la Constitution qui garantit la protection des croyances religieuses au-dessus de tout. Hein, on rappelle, les colons américains étaient avant tout des religieux. Et on a ça qui, finalement, limite le droit des femmes, le droit des homosexuels et plein d'autres choses. Alors, du coup, il y a plusieurs affaires et la Cour suprême doit se prononcer. Mais vu les juges présents actuellement dans la Cour suprême, ça part mal, quand même. Alors maintenant, on va en Grèce. Et en Grèce, il y a eu un débat télévisé consacré à l'avortement. Alors c'est toujours un peu compliqué, les débats télévisés consacrés à l'avortement, surtout quand on invite un évêque orthodoxe, c'est-à-dire un religieux. Et donc lui, il a affirmé, comme ça, à la télé, qu'une femme n'est pas violée à moins qu'elle le veuille. C'était quand même plutôt pas mal, hein, comme phrase. Alors ça a énervé tout le monde, même l'église orthodoxe s'est trouvée emmerdée. Pourtant l'église orthodoxe est contre le droit à l'avortement, contre les homosexuels, contre les droits des homosexuels. Mais là, ça se voyait trop. D'habitude, ils font leur truc dans leur coin, ils le disent à ceux qui croient en eux, dans leurs églises, dans leurs temples, mais ils le disent moins à la télé devant tout le monde parce que ça se fait pas. Alors ça a énervé aussi bien évidemment certains élus, le ministre notamment de l'éducation et des affaires religieuses grec, membre du gouvernement, Niki Kerameos, qui a trouvé ça, c'était impensable, voire peut-être répréhensible. Alors, on espère que ça le sera. Ça démontre juste que la parole se libère, hein, chez les religieux qui avait été un peu mis de côté, même si dans certains pays c'est plus compliqué, on le voit depuis des années en Hongrie ou en Pologne, mais là voilà, en Grèce on avait l'impression qu'il y a eu certaines évolutions, mais en fait non, la Grèce est toujours sous l'emprise de la religion orthodoxe, hein, ultra majoritaire, ultra homophobe, ultra contre le droit des femmes à disposer de leur corps. Voilà, c'est la dernière petite info du jour là-bas. Et puis on va terminer cette rubrique ni Dieu ni maître avec une info locale, puisqu'on va aller à Lyon. Oui, Radio Canu est à Lyon. Car ce jeudi, c'est le fameux jeudi des vœux aux échevins. Ah oui, ça fait polémique depuis l'année dernière. Avant, on n'en parlait pas trop.
Enfin, avant, on était quelques-uns et quelques-unes
à détester ça.
Athées, rationalistes, à se dire laïcs aussi, à se dire mais enfin, on va peut-être arrêter de faire ça.
Ouais. Et non. Alors, comme l'an dernier, ça va être une personnalité qui va être chargée de remettre l'écu d'or de la ville à ces religieux chrétiens, catholiques, très exactement. Pourquoi ? Parce que le maire vert, Grégory Doucet, refuse, au nom de la laïcité, de mettre un pied dans la basilique pour faire ce vœu, là, de se soumettre, en fait, quelque part, de remercier les religieux. Alors c'est plutôt pas mal qu'il fasse ça. Le truc c'est qu'il est quand même hypocrite, monsieur Grégory Doucet, c'est la ville qui paye l'écu qui va être donné symboliquement aux religieux, et voilà, il cautionne indirectement un tout petit peu l'événement plutôt que de s'y opposer totalement en disant c'est inadmissible. Donc finalement cette année c'est André Manoukian qui est lyonnais qui va remettre cet écu. Donc lui il va se mettre à genoux devant les religieux pour les remercier d'un truc qu'ils n'ont pas fait. Parce que pour mémoire, on se rappelle, hein, cette cérémonie, c'est de la propagande de l'Église catholique lyonnaise, hein, qui est derrière ce truc-là. Ça remonte à pas mal d'années, au XVIIe siècle, époque où la peste sévit à Lyon. Pendant ce fléau, le 8 septembre, c'est pour ça que ça tombe toujours, hein, 8 septembre 1643, il y a la fête de la Nativité de la Vierge. Le prévôt des marchands, c'était l'équivalent du maire aujourd'hui, et ses quatre échevins, ses adjoints, accompagnés un peu de quelques Lyonnais et Lyonnaises, ils se rendent en procession à Fourvière. Là, ils montent dans la chapelle de la Vierge. Ils offrent, donc ils assistent à la messe, ils offrent 7 livres de cire blanche et un écu d'or en demandant à ce truc-là, à cette église, que Lyon soit épargnée par la peste. Peu après, la peste recule et pour ces amateurs de superstition, leur vœu est donc exaucé. Et depuis, la tradition lyonnaise est d'accepter ça et d'aller remercier le Dieu de ces chrétiens de les avoir sauvés. Alors c'est une propagande, hein, basée sur une totale fake news, hein, puisque rien n'a jamais pu prouver que Dieu intervienne quoi que ce soit nulle part, que Dieu soit autre chose qu'un personnage inventé, et surtout, encore plus, que ce soit ça qui ait évité une énorme épidémie de peste. Il y a bien d'autres mesures qui ont joué, d'autres actions qui ont joué. Donc tout ça, toute cette religiosité, cette irrationalité là, qui est portée par une grosse partie de la bourgeoisie traditionnaliste lyonnaise, reste fort, reste implanté. Chaque année, on parle quand même de cette cérémonie de soumission religieuse à des autorités religieuses qui n'ont pas d'autorité, en fait. Voilà, Lyon est jamais sorti de ça, la ville de Lyon, même si Grégory Doucet, il essaye un tout petit peu, il n'a pas le courage d'aller plus loin, parce que voilà, l'énorme bourgeoisie traditionnaliste lyonnaise est derrière ce truc-là, et l'Église a toujours lyonnaise a toujours cette force. On rappelle que c'est grâce à cette force, à cette présence, à cette collaboration avec certaines élites lyonnaises que l'Église peut se permettre, lyonnaise, de protéger des prêtres pédophiles, de minimiser les viols et agressions commises par des prêtres et de continuer encore aujourd'hui à protéger un religieux qui a agressé sexuellement des jeunes au Canada, que le Canada demande à récupérer pour le juger et que l'Église lyonnaise continue de le protéger. C'est grâce à ce pouvoir de ces religieux que la justice ne peut pas agir, que les viols continuent et que les violeurs continuent d'être libres. Voilà.
Alors on va parler toute autre chose, nous allons partir un petit peu hors de nos frontières et on va commencer par une info économie fiscale. Pour être tout à fait précise. Ça se passe en Italie, nous avons appris par l'agence de presse ANSA, c'est-à-dire l'agence de presse italienne, hier, que Auchan et Carrefour sont sous le coup d'une enquête de la justice italienne qui les soupçonne d'avoir mis en place un mécanisme pour mettre en place une fraude fiscale. Alors ça porterait sur une période de 2015-2019 et d'après donc les informations que nous avons déjà, les Auchan et Carrefour sont suspectés d'avoir dissimulé près de 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors cette fraude fiscale, elle porte sur quoi précisément? Puisque je vous parle de chiffre d'affaires, elle porte en fait sur la TVA. Alors en Italie, la TVA elle est à 22% et à 10%. On reviendra juste après sur la TVA française. Cette cachotterie de chiffre d'affaires aurait permis aux deux groupes de soustraire 260 millions d'euros de TVA. Je vous rappelle comment ça fonctionne la TVA, au cas où vous l'auriez oublié, parce que c'est vrai qu'au quotidien, c'est un impôt indirect que nous payons tous et toutes en tant que consommateurs et consommatrices, c'est-à-dire que quand vous allez acheter quelque chose en magasin, vous avez un produit que vous achetez toute taxe comprise, c'est-à-dire avec la TVA. Donc la TVA en France, elle est de 20% hein, pour le taux plein. Et puis comme on est des pays un petit peu plus compliqués que d'autres, on a donc ce taux à 20%, le taux intermédiaire à 10%, et puis ensuite le taux réduit à 5,5, et puis le taux super réduit à 2,1. Puisqu'il faut savoir qu'en France, selon si vous achetez une bière, donc de l'alcool, si vous achetez une boisson sans alcool sur place ou à emporter, si vous achetez un produit alimentaire transformé ou non transformé, si vous achetez une place de spectacle musical ou théâtral, si vous achetez un produit médicament, eh ben la TVA n'est pas la même. Il y a un boulga, je vous l'avoue, moi je trouve, hein, dans toute cette TVA. Alors en plus, en France, on applique les taux réduits et super réduits, ce qui n'est pas normal dans le cas de l'Union européenne. Donc la France est toujours taxée, se fait taper sur les doigts pour appliquer ces taux particuliers. Alors ce sont des taux qui sont très utiles, par exemple dans le spectacle, pour le théâtre, hein, que vous avez en dessous d'un certain truc, d'un certain nombre de représentations, une TVA de 1, c'est très intéressant. Pourquoi? Je vous rappelle le fonctionnement. Donc, vous achetez, vous, votre produit, votre paire de baskets, votre bière donc au bar ou votre boisson sans alcool. Vous la payez, donc, toute taxe comprise. Simplement, lui, le bar ou le magasin de chaussures, si vous êtes commerçant ou commerçante, vous le savez, il réfléchit en hors-taxe. Parce que la TVA qui est sur ce produit, il ne fait que la collecter pour l'État. Elle ne lui appartient pas. Donc c'est là où on a des commerçants qui se font avoir parce qu'ils pensent avec la TVA et se retrouvent à devoir donner cet argent, puisque vous donnez de l'argent quand vous avez et de la TVA que vous avez collectée sur les produits que vous avez vendus, vous me suivez, et de la TVA que vous devez déduire de vos achats que vous avez faits. Vous me suivez toujours. Et donc, le petit calcul ensuite, c'est que vous faites TVA collectée moins TVA déduite et vous devez de la TVA ou non aux impôts. Puisque vous pouvez avoir tellement d'achats que ça dépasse votre TVA collectée et que donc vous êtes en crédit, c'est ce qu'on appelle comme ça, et que donc vous ne payez rien. Mais la plupart du temps, si votre affaire elle marche, eh ben vous payez. Donc, c'est
vous vendez plus cher et plus de trucs que vous achetez. C'est pas logique.
Puis ça veut dire que vos frais, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est votre affaire, elle marche quand vous payez la TVA. Il y a un moment, beaucoup de commerçants.
Sans vous ne payez pas la TVA, vous avez collecté la TVA pour l'État.
Mais vous la collectez, mais en même temps, si vous la donnez aux impôts, c'est que les petits commerçants souvent râlent, mais cet argent ne leur appartient pas, il faut le rappeler. Alors, le TVA est un impôt injuste, hein, on pourrait en parler pendant 2 heures, mais ce n'est pas le propos. Mais en tout cas, c'est sur cette petite pratique que Carrefour et Auchan ont a priori grugé le fisc italien, c'est-à-dire qu'on ne déclare déclarant pas une partie de leur chiffre d'affaires, ben ils n'ont pas payé la TVA sur ce chiffre d'affaires, sur cet argent collé, sur cette TVA collectée. Donc Carrefour a déjà réagi en expliquant qu'il y avait une enquête interne qui allait être menée. Oh là là, voilà, on y croit.
Ouais, ils vont trouver un salarié responsable et
ben, ah ouais, je pense plutôt, je pense que c'est au niveau du groupe en Italie, ouais. Hein, quand même, que ça va quand même un peu cartonner. Alors il paraît que ça va pleinement collaborer du côté de Carrefour. Par contre, du côté d'Auchan, on réagit pas, alors on ne collabore pas pleinement. Ça m'a permis quand même de me souvenir d'une petite affaire, hein, c'est que la famille Muyès, qui est donc propriétaire d'Auchan, entre autres, mais aussi de Decathlon, je vous rappelle, s'est pris un petit redressement de 6 millions d'euros, hein, c'est les héritiers qui ont pris ce redressement dans la figure, pour avoir minoré hein, leur patrimoine dans leur déclaration d'ISF. Bah, ouais. Du côté d'Auchan, on a quand même toujours un petit peu le secret, la cachotterie, hein, et là voilà. Donc de partout, hein, en fait, on a des entreprises, mais aussi des grandes qui jouent pas simplement qu'avec la facilité fiscale, mais aussi simplement des fois en contournant les règles et en ne payant pas, en ne rendant pas, en tout cas, l'argent collecté sur les TVA. C'est une pratique assez classique que petites et grosses entreprises et multinationales font. Ensuite, je vous ai trouvé une information aux Pays-Bas. On part alors. Aux Pays-Bas, on avait déjà Amsterdam, qui avait interdit les publicités pour le transport aérien et pour les automobiles à pétrole. Ça, ouais. C'était déjà mis en place. Et on a une nouvelle municipalité, Haarlem, qui a eu une bien bonne idée. L'idée, alors, c'est une décision qui a donc été votée grâce au parti écologiste GroenLinks avec l'appui des chrétiens démocrates. Et donc, c'est une résolution qui a été adoptée à partir de 2024. Il n'y aura plus sur les panneaux publicitaires publics, les abribus publics, donc tout ce qui est public, de publicité pour la promotion de la viande.
Grosso modo, ils essayent de supprimer la publicité pour tous les produits qui sont le plus nocifs pour la planète. Donc, on a compris, c'est les bagnoles, l'avion et la viande. Et sans les interdire, du coup, on empêche leur promotion. Donc, mais il n'y a pas d'interdiction. On laisse la liberté aux gens quand même de manger
la viande. Voilà. Alors, l'association des producteurs de viande juge que cette mesure va beaucoup trop loin. Je les trouve très polis. Du côté de la droite et l'extrême droite, là, on est beaucoup plus radicaux. Hein. On dénonce une mesure dictatoriale. Incarnation d'une écologie punitive, j'ai pu lire quelque part.
Ah, mais c'est le mot magique, l'écologie punitive. Leur pollution, elle est punitive aussi, elle détruit la planète, mais ça, c'est pas grave, ils ont le droit.
Alors, il faut dire qu'il y a des producteurs de porc aux Pays-Bas. Ils sont extrêmement importants, extrêmement puissants en Europe. Alors déjà là, il pourrait y avoir des recours en justice sur le principe de la liberté d'expression. Voilà, je vous ai bien laissé le petit blanc, vous comprenez un petit peu. Alors, la viande, hein, ça pollue. Hein. Il faut mettre des animaux sur pattes qui mangent.
Ouais, c'est à peu près 15% de l'impact environnemental.
Ouais, ça, c'est selon les chiffres hein, de l'ONU. Hein.
Ça, c'est quasiment je crois que c'est le plus gros impact de tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours.
Voilà.
Plus que la bagnole, que l'avion, que tout ça. C'est le fait qu'on mange de la viande, que beaucoup de gens mangent de la viande tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et c'est pour ça que c'est le plus gros impact humain sur la planète en termes de gaz à effet de serre.
Alors, je vais aussi poursuivre avec Liz Truss. Vous savez, c'était une nouvelle première ministre de l'autre côté de la Manche.
La nouvelle Thatcher, là.
Ouais. Alors, juste, il faut se souvenir, parce que vous savez qu'il y a des mouvements, hein, quand même, au Royaume-Uni, assez importants. Là, aujourd'hui, les postiers étaient en grève. Mais on a eu les transports, l'éducation, dans les services municipaux. Enfin, voilà. Là, il y a du mouvement. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu de l'autre côté de la Manche, il faut le dire hein, quand même. Il y a quand même une masse, hein, voilà, mais il faut dire qu'il y a une inflation qui a plus de 10%, c'est plus important que chez nous. Et donc, Madame Liz Truss, elle a quelques idées quand même, parce que c'est une anti-syndicaliste. C'est pas nouveau. Hein. Elle avait expliqué dès juillet qu'elle ne se laisserait pas faire par les militants syndicalistes et qu'elle ne laisserait pas les militants syndicalistes prendre en otage l'économie.
Oui, c'est une libérale. Elle est issue au départ du Parti libéral avant de rentrer dans le Parti conservateur. Donc elle est effectivement dans cette ligne droite idéologique du libéralisme.
Alors en juillet, elle était pour des mesures répressives contre les grévistes. Voilà. Et là, elle cherche à changer les règles et la réglementation au nom de la compétitivité. Donc ce qu'elle veut, c'est revoir les textes donc empêcher les grèves, c'est-à-dire obliger les gens à assurer un service minimum, ce qui évidemment pour les syndicats amène une limitation du droit de grève. Mais voilà, on sait déjà comment va se passer ce nouveau gouvernement. Cette nouvelle première ministre, et comme tu le dis, est extrêmement à droite au niveau économique.
Ouais, c'est pour ça qu'elle est souvent comparée à Thatcher. Thatcher qui a brisé des grèves, qui a cassé beaucoup de choses en termes de droits sociaux en Angleterre. au Royaume-Uni.
Donc tout à l'heure, je vous ai dit, hein, les transports, l'éducation, les services municipaux, les postiers. Là, on attend les avocats, les cheminots, parce qu'ils en ont pris plein la tronche, les éboueurs aussi, et puis dans les hôpitaux. Voilà, parce que du coup, de l'autre côté de la Manche, ben, ça cartonne quand même. Je ne sais pas ce qui va se passer ici, puisque nous attendons les nouvelles réformes du chômage et de la retraite.
Si ça va dans le même sens.
Voilà.
Ben, c'est des libéraux au pouvoir aussi.
Je te laisse poursuivre.
Oui, alors un petit mot sur le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, hein, pour traduire ce que veut dire Burkina Faso. On n'en parle pas souvent de ce pays d'Afrique. Et là, on va en parler, puisqu'il y a eu des choses autour du balai citoyen. Donc, c'est un vieux mouvement qui date de 2013, issu de la société civile, qui avait fait beaucoup bouger le pays, et notamment qui avait bien pris part à virer le président dictateur de l'époque, qui s'est fait virer en 2014, qui s'appelle toujours d'ailleurs Blaise Compaoré. Et là, ça semble mal parti pour un de leurs responsables. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Alors d'abord, mardi, la dernière action en date, j'ai pas eu d'infos depuis, il y a eu une manifestation, on va dire, à Ouagadougou, la capitale, devant l'immeuble qui abrite la brigade centrale de la lutte contre la cybercriminalité. Et ils sont allés là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent la libération d'un de leurs camarades qui s'appelle Olo Mathias Kambou. Donc, ils ont fait leur manif et là est arrivé d'autres manifestants qui font partie d'un mouvement qui s'appelle Sauvons le Burkina, qui eux sont plutôt du côté du gouvernement, voilà, et qui disent non, il faut qu'il reste en tôle Olo Mathias Kambou, parce que c'est un méchant. Ils disent pas ça comme ça, mais pas loin. Alors pour reprendre toute l'histoire, en fait, Olo Mathias Kambou a été arrêté la veille, donc lundi. Il avait participé à une émission spéciale qui faisait le bilan des 5 mois de gestion du pouvoir de Paul-Henri Damiba. Paul-Henri Damiba, c'est le militaire issu du coup d'État qui a pris le pouvoir par la violence, par la force, et pas par les élections. Donc il a participé à cette émission, il n'a pas forcément dit du bien, forcément, du dictateur, et donc c'est pour ça que, a priori, il avait disparu. Et que les amis du dictateur, donc notamment Sauvons le Burkina, dit bah, il a insulté le président, c'est normal. Alors il n'a pas insulté, mais ni injurié, mais il a juste dit des choses qui n'ont pas plu au président. Alors selon les avocats de Olo Mathias Kambou, qui sont arrivés à retrouver sa trace, ils ont d'abord remarqué qu'il avait été emmené à la gendarmerie, interrogé pendant 2 heures, puis transféré à cette fameuse brigade centrale de la lutte contre la cybercriminalité, et c'est là où il y avait la manifestation pour demander la libération de leurs camarades. Donc voilà, le coup d'État a 5 mois, puisque c'était le 24 janvier 2022 à peu près, hein, c'est un coup d'État un peu ambigu, hein, pour le Burkina Faso, ambigu dans le sens où c'est un coup d'État classique d'abord. Les militaires prennent le pouvoir, Paul-Henri Damiba est un militaire pur, il prend le pouvoir. Mais une partie de la population soutient le coup d'État. C'est toujours compliqué quand ça arrive, parce que la démocratie disparaît, parce que il y a un soutien de la population. Et il y a un soutien, entre autres, parce que le Burkina a une partie du territoire où les groupes religieux font des attentats. Vous avez entendu parler de ces trois frontières là où on a des choses assez atroces que font ces mouvements religieux. Voilà, ces terroristes, vous les appelez comme vous voulez. Et en instrumentalisant cette insécurité, qu'avait pas su gérer le président Kaboré, hein, parce que c'était compliqué et que ben il fallait peut-être lui donner un peu de temps, les militaires ont pris le pouvoir. Alors depuis, ils ont théoriquement rétabli la constitution et il a promis, juré, qu'il resterait 3 ans et qu'après il s'en irait, il y aurait des élections. Alors comme d'habitude, hein, croire des militaires, ça sert à rien. En général, vous faites avoir. On verra dans 3 ans ce qui va se passer. Mais ça a fait réagir notamment les citoyens, ce mouvement issu de la société civile qui avait été très très fort contre le précédent dictateur. Donc voilà, alors ils sont moins présents, moins visibles, parce que c'est forcément plus, à nouveau un système autoritaire. Mais ce qui montre avec cette arrestation, ce gouvernement, c'est qu'en fait, les pratiques de Blaise Compaoré et de la dictature précédente semblent de retour. parce qu'on n'attaque pas comme ça des militants d'un mouvement citoyen. Donc voilà, donc là, voilà. Le Burkina, on en a moins parlé que du coup d'État malien, mais non, là-bas aussi, l'armée a pris le pouvoir, un militaire a pris le pouvoir et se fait appeler président, parce que tant qu'à faire, hein, ça fait un peu mieux que dictateur. Alors, en lien au Burkina, on n'en parle pas souvent du Burkina Faso. Je voulais juste rappeler qu'il y avait alors un livre qui n'est pas écrit par un Burkinabé, mais qui parle du Burkina Faso. Un livre sorti il y a un moment, en 2006, qui s'appelait « À quoi ?»
Qui s'appelle toujours à quoi. Que vous pouvez trouver en livre de poche.
À Folio SF, ouais. De Jean-Marc Ligny, un auteur de science-fiction. Alors là, c'est pas un roman de science-fiction, c'est un roman d'anticipation. Il imagine à quoi peut ressembler la Terre en 2030. Alors, on s'en approche de plus en plus. Il l'a écrit en 2006, hein, donc il y a un poil, il y a quand même plus de 15 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les enjeux ont changé. C'est plus le gaz, c'est plus le pétrole, c'est l'eau. Puisqu'il y a une sécheresse endémique, notamment sur les pays d'Afrique, et il y a au nord l'inverse, un peu des trombes d'eau, enfin des montées des eaux, parce que ça, toute la glace a fondu, enfin toutes ces catastrophes. Alors j'en parle parce que je l'ai lu cet été et c'est assez intéressant parce que c'est exactement ce qu'on a vécu cet été. Alors pas tout le contenu du roman bien évidemment, mais les chaleurs extrêmes chez nous, la Chine par exemple qui a connu une partie chaleur extrême, et de l'autre côté, des pluies diluviennes, le Pakistan qui est sous les pluies diluviennes. Finalement, sa description 15 ans à l'avance est très réaliste par rapport à ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a vécu en tout cas cet été. Et puis là-dessus se rajoute le libéralisme. C'est-à-dire qu'il y a une image satellite qui se retrouve piratée, qui visualise une nappe phréatique au Burkina Faso. Et dans la loi du Burkina et d'autres lois mondiales, eh ben celui qui trouve quelque chose en est en partie propriétaire. Et donc là, ceux qu'on trouvait, c'est une société américaine capitaliste qui avait le satellite et qui viennent pour réclamer la nappe phréatique alors que le Burkina Faso a pas d'eau. Et il se passe tout un voilà une histoire bien rocambolaise, qui se passe plein de choses avec une ONG qui envoie deux personnes pour amener des tuyaux et un système pour aller pomper l'eau de la nappe phréatique, hein, qui est à 150 mètres au moins dans le sol, là, ou 250, je sais plus. Et de l'autre côté, le capitalisme américain qui possédait le satellite, lui, va empêcher le Burkina Faso d'accéder à son eau. Et il y a toute une bataille là-dessus. Se rajoute la religion, puisque les États-Unis d'Amérique sont phagocytés par des groupes religieux très forts, hein, ça ressemble à aujourd'hui, du coup. Et voilà, et il y a un livre d'anticipation avec un petit côté fantastique, notamment avec de la magie mais en œuvre par une grand-mère africaine. Voilà, on n'est pas dans le réalisme pur, hein. Il n'a pas écrit un roman ultra réaliste non plus. Le fond est réaliste et après l'histoire est plus fantastique. Mais c'est quand même un pamphlet contre l'économie libérale. Il y a un pamphlet écologiste, il l'avait déjà fait il a fait toute une série de romans, hein, sur ce thème-là. Et voilà, je trouve très réussi. J'ai beaucoup aimé, c'est un gros livre, ça doit faire presque 1000 pages, mais on est embringué dans cette histoire et on déteste le capitaliste qui veut voler l'eau des Burkinabés. Et voilà, ça fonctionne vraiment très très bien.
Oui, je vais amener un petit peu de contradiction dans tout ça. Alors c'est vrai que tout ce que tu dis est très intéressant sur cette attaque du libéralisme, sur aussi une mise en lumière de la corruption aussi dans le système africain, aussi sur cette Europe ravagée avec des gens qui se retrouvent en migration ou vivre dans des camps, la violence. Je trouve que bon, les personnages sont un petit peu clichés de temps en temps, ça traîne en longueur quand même, un petit moment. Et puis, si c'était au cinéma, on pourrait dire qu'il y a des scènes surjouées, et je critiquerais aussi sa représentation des ultra-riches, et en particulier vouloir amener les Rothschild comme étant à la manœuvre de ces ultra-riches. Je trouve qu'aujourd'hui, on peut attaquer, alors à l'époque évidemment, même déjà, début des années 2000, par d'autres familles qui sont à la tête de multinationales pour démonter...
C'est pas les familles, c'est la banque, hein, qui finance.
Ouais, mais quand même, il y a quand même toute une attaque plusieurs fois sous ce dôme avec les Rothschild, et je pense qu'on peut aller au-delà de ça. C'est un petit peu une critique que j'amène. Après, ce roman reste malgré tout, effectivement, comme tu dis, très prenant, même si je trouve qu'effectivement ça traîne un tout petit peu en longueur et que parfois on aimerait que les personnages soient un peu moins clichés et un petit peu moins niais aussi, quoi. Bon, mais c'est une critique petite malgré tout, parce que j'aime bien naître de la contradiction.
Voilà, et ça se passe donc au Burkina Faso avec une présidente qui est assez incroyable quand même. Voilà.
Alors, on va parler de toute autre chose. Ah non, t'as encore Israël, excuse-moi, vas-y.
Ah bah, je
t'en prie.
Allez, je fais Israël. Bon, on va revenir en fait sur la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh. C'est issu de ce qui s'est passé en début de semaine et de l'analyse de Reporters sans frontières. Donc, si vous avez suivi l'affaire, ça fait pas mal de mois hein, que l'armée israélienne, notamment, dit il s'est rien passé, elle a été tuée, on ne sait pas par qui. Alors, il faut savoir qu'elle couvrait en tant que journaliste une manifestation à Jenin et qu'elle meurt donc avec une balle dans la tête. Et là, lundi, l'armée israélienne a publié un rapport où elle dit qu'il est fort probable que la journaliste d'Al Jazeera a été abattue par un soldat israélien. Mais par accident. Bon, il y a toujours le mais. Hein. Et deuxième mais, les autorités israéliennes continuent de cacher un petit peu la vérité avec des justifications vagues, des trucs qui sont sous des sortes d'hypothèses alors qu'on en est sûr, et qui a quand même du mal à admettre que, comme l'ont révélé plein d'enquêtes, hein, il y a le New York Times, l'ONU, CNN qui ont fait des enquêtes, et toutes elles aboutissent au fait que c'est bien un crime, et bien un crime commis par l'armée israélienne. Voilà. Donc, on en est là, ce qui arrive en début de semaine. En même temps, le bureau du procureur militaire israélien indique, en même temps, le même jour, il n'y a pas de soupçon d'acte criminel justifiant l'ouverture d'une enquête criminelle par la police militaire. Donc, le rapport de l'armée dit, c'est probable que ça soit nous, et le bureau du procureur militaire israélien dit, on n'ouvre pas d'enquête. Parce que c'est pas sûr à 100%. Ah oui, ils disent 99%, tout ça, il manquait, voilà. Donc, on en est là aujourd'hui, hein, c'était le 11 mai dernier, quand même, qu'elle a été assassinée par un raid militaire, on sait pas si quel est le militaire hein, qui a tiré, dans cette Cisjordanie occupée. Elle était ultra visible, hein, elle portait un casque, un gilet pare-balles, la mention presse en gros, donc c'est pour ça que tout le monde demande qu'il y ait un vrai jugement, une vraie enquête, un vrai procès officiel, parce que c'était difficile de la viser par accident quand même. Ou alors les militaires israéliens, c'est des branques et on sait tous et toutes que c'est pas vraiment le cas. Alors son employeur a réagi suite à ce qui s'est au rapport lundi, donc c'est Al Jazeera. La famille a réagi aussi, l'autorité palestinienne de Jenin, là où ça s'est passé, a réagi et il demande que tout ce que ça aille un petit peu plus loin que ce simple rapport, puisque les preuves sont accablantes, les différentes enquêtes l'ont montré et ce rapport de l'armée israélienne le montre aussi. Sauf que, ben voilà, on en est là, tout est coincé. La famille de Shireen a elle-même tweeté pour essayer de lancer des appels au secours en disant, ben faudrait que la Cour pénale internationale se saisisse de tout ça pour qu'il y ait une enquête internationale, ce qui est demandé depuis le début et ce que personne n'arrive à obtenir. Israël ayant quand même beaucoup d'amis dans la région, même dans les pays arabes aujourd'hui, hein, Israël a plein d'amis, et ce qui fait que tout est bloqué, puisqu'on en est là de la politique politicienne, hein, ce réel politique qui détruit les droits de l'homme et de la femme, ça se voit encore ici, dans le cas du meurtre de Shireen Abu Akleh. Donc voilà, alors faut savoir que c'est pas la seule à mourir, malheureusement. Et les journalistes qui couvrent le conflit palestinien sont particulièrement visés, notamment par l'armée israélienne. Ce lundi, donc on était le 5 septembre, le jour où le rapport est rendu, le matin même de l'annonce, un journaliste, Nadal Ijbaria, est retrouvé mort dans sa voiture, assassiné. Alors lui, ça faisait plusieurs fois qu'il avait des menaces de mort. Il avait alors dénoncé hein, les attaques sur sa maison, sur tout ce qui s'était passé. Et il était dans le viseur de l'armée israélienne et de l'État israélien. Alors bien évidemment, on ne sait pas qui l'a assassiné. Enfin, voilà, on a de fortes présomptions. La veille, journaliste palestinienne qui s'appelle Lama Koshay, qui s'appelle toujours, elle a été arrêtée par les forces israéliennes à son domicile. Et ils ont tout pété chez elle lorsqu'ils l'ont arrêtée. Pourquoi ? Parce qu'elle est journaliste et qu'elle couvre le conflit israélo-palestinien. Alors il y a d'autres cas, hein, la veille encore de ce dimanche, donc c'est le samedi 3 septembre, les deux journalistes ont été là aussi arrêtés en Cisjordanie. Mais alors cette fois, c'est par les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. qui collabore pas mal, hein, on le rappelle, avec l'État israélien. Donc les journalistes sont majoritairement, certes, visés par l'armée israélienne, mais aussi par l'autorité palestinienne. Donc voilà, la situation est très difficile pour la presse dans ce lieu d'occupation qu'est la Cisjordanie, notamment, et Jérusalem aussi. Donc voilà, c'était cette petite info, en espérant qu'un jour il y ait des vrais procès, et que voilà, et puis surtout qu'on sorte de cette horreur qu'est l'occupation et la spirale de violence.
Alors, tu sais que l'Iran mène une guerre informatique contre Israël, c'est-à-dire qu'Israël sait se défendre et a créé aussi tout un arsenal de défense contre tout ce qui peut être virus, attaque contre ces systèmes informatiques. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît assez simple, parce que ce sont deux pays ennemis assez classiques. Ce qu'on sait moins, c'est que l'Iran semble s'en prendre aussi à des pays européens, et là c'est le cas de l'Albanie. Le mi-juillet, le 15 juillet dernier, les autorités albanaises ont débranché les systèmes informatiques gouvernementaux, puisqu'il y avait une attaque rançongicielle. Vous savez, c'est... ça rend vos systèmes inaccessibles.
Ça bloque vos ordi tant que vous ne donnez pas d'argent.
Voilà, exactement. En tout cas, il faut donner quelque chose si ce n'est pas de l'argent. Hein, oui. Voilà. Soupçons que ce n'est pas tant du pognon qui est demandé, mais que c'est plutôt l'idée de vraiment bloquer le système. Alors, c'est le Premier ministre, M. Rama, qui a fait un message, une vidéo, où il explique que l'attaque visait à détruire l'infrastructure numérique du gouvernement de la République d'Albanie, à paralyser les services publics, à pirater des données et des communication des systèmes gouvernementaux. Il dit aussi dans ce message, l'attaque du 15 juillet n'était pas un acte individuel ou une action concertée d'un groupe cybercriminel indépendant, mais une agression d'un État. C'est extrêmement sérieux ce que se dit M. Rabat. Il continue, une investigation approfondie nous a permis de découvrir des preuves irréfutables que cette attaque contre nos pays a été orchestrée et soutenue par la République islamique d'Iran. Ce qui se passe, et pourquoi on en parle, j'en parle aujourd'hui, c'est que hier, mercredi, ce Premier ministre albanais, Edi Rama, a donc annoncé que c'était la fin des relations diplomatiques entre l'Albanie et l'Iran, et que les diplomates et les employés de l'ambassade iranienne à Tirana avaient 24 heures pour faire les valises, se barrer. Ils sont mis dehors, ils sont expulsés. Alors, il faut savoir que les États-Unis avaient tout de suite soutenu l'Albanie, et continuent à le faire, puisque... Dès le début, dès la mi-juillet, dès la fin juillet précisément, il y a eu des experts des États-Unis d'Amérique envoyés par les sphères des États-Unis d'Amérique, se sont rendus donc en Albanie pour comprendre d'où venait cette attaque et qui a mené donc à cette accusation sur l'Iran. Alors il y a une entreprise qui s'appelle Mandiant qui est à la manœuvre sur cette expertise et qui explique que l'Albanie est visée pour des cibles très précises, pour des raisons très précises par l'Iran. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi l'Albanie ? Qu'est-ce que l'Albanie a donc fait ? Alors, ce que l'Albanie elle fait, c'est d'une manière indirecte d'avoir accueilli sur son sol depuis 2013 des membres d'une organisation qui s'appelle l'Organisation des Moudjahidines du peuple iranien, qu'on voit écrit souvent OMPI. Alors, c'est un groupe contre le gouvernement iranien, hein, plutôt marxiste. Ouais, marxiste, hein, assez classique. Et donc, depuis 2013, l'Albanie, encouragée par les États-Unis et l'ONU, accueille donc ses membres qui fuient l'Iran et qui donc habitent maintenant en Albanie. Et c'est à cause de ce mouvement, de cette organisation, que l'Albanie est visée, et surtout parce qu'en juillet devait se tenir un rassemblement de cette organisation en Albanie. Alors depuis, le rassemblement a été annulé, mais il a été annulé avant qu'on sache que c'était l'Iran, parce que a priori l'Albanie avait peur un petit peu des soucis de sécurité sur l'organisation de cette réunion, de ce rassemblement, c'était prévu à la fin du mois de juillet. Donc, c'est intéressant de voir aujourd'hui l'Iran s'en prendre à un pays soutenu par les États-Unis d'Amérique, l'Albanie, pays dont personne ne parle jamais, très rarement, en tout cas sur la scène internationale, on en parle quand même pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'est pas la première fois que cette organisation opposante au régime iranien est visée. C'était déjà le cas en Belgique. Donc ça veut dire que l'Iran s'attaque aussi à des systèmes informatiques pour viser les pays qui pourraient soutenir des organisations opposée à son régime actuel. Ça, c'est très intéressant. Voilà, c'était juste ce que j'avais envie de vous raconter. Je vous raconte juste aussi vite fait sur l'Iran qu'il y a deux femmes accusées de... cette mise en avant de lesbianisme. Voilà, c'est de ça qu'elles sont accusées, deux femmes. Alors, on nous dit que c'est la première fois que deux militantes lesbiennes sont accusées et condamnées par un tribunal. Peut-être aussi, pourquoi aujourd'hui on les attaque ? Parce qu'il y a une partie de la population qui veut se libérer et qui commence aussi à exposer des idées, dont le fait de pouvoir vivre librement ses amours et sa sexualité, et que ça ne plaît pas du tout au conservatisme religieux iranien. La France a... croyez-moi, a déploré hier la condamnation à mort de ces deux femmes, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, d'une condamnation à mort. C'est absolument évidemment scandaleux et il y a besoin évidemment d'avoir beaucoup de bruit pour tenter de sauver ces deux femmes, Zahra Siddiqui Amiadami et Elham Choudba, voilà, pour leur nom et leur prénom. Voilà, c'était juste pour ajouter ça.
Alors, pour terminer le Kenya Info, je voulais donner trois petites infos très très courtes. La première, c'est que si vous détestez la monarchie et les parasites qui vivent au crochet du peuple, il faut éteindre vos télés et vos radios pendant, à mon avis, une semaine, puisque la reine d'Angleterre, Elisabeth II, est morte. Donc voilà. Donc ça.
Alors, toute la journée, on a eu les présarticles. Voilà. Que se passera-t-il si jamais elle décède ?
Elle
voilà. Ça, ils nous avaient tous sorti.
Donc ça va être l'horreur. Vous allez bouffer de la monarchie, de ces parasites aristocratiques là, qui vivent au crochet du peuple et qui dirigent le peuple parce qu'ils sont nés à cet endroit-là, de cette famille-là. Donc ça, c'est la première info. Voilà, je vous incite à plus écouter autre chose que Radio Canu. Sinon, Darmanin, qui devait venir l'autre fois, il n'est pas venu, eh ben il vient demain. Donc ça sera le 9 septembre, demain, si vous êtes un peu perdu. Alors, on ne sait pas où il vient. A priori, il ne viendrait pas à la Guille. Il viendrait plutôt à la mairie centrale. Mais il y a une mobilisation à la Guille, comme on l'avait annoncé la dernière fois, une occupation festive, place du Pont, à partir de 10h, pour celles et ceux qui sont disponibles. Voilà, juste faire la fête pour montrer que nous on est là, qu'on fait la fête et qu'on n'aime pas Darmanin. Et dernière petite info pour ma part, mais tu pourras parler après. Le 17 septembre, c'est la rentrée de la griffe. C'est pas ça que tu voulais dire ? Non. À 15h, donc le retour des rencontres débats à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe dans le 7e. Là, c'est autour d'un livre de Romain Bonnel et de François Cerruti qui s'appelle Une histoire sociale et politique de la conquête de l'Algérie par la France.
Oui, alors il me reste un dernier sujet que j'ai quand même réussi à placer vu qu'il me reste petit peu du temps. Je voulais vous parler du site complotiste et menteur et tout ça qui s'appelle François. Alors juste pour coucou le Parisien, hein, vous savez le
journal.
Le journal. François, il n'y a plus de tiret au milieu. Voilà, c'est juste parce que j'ai vu passer un de vos articles avec un tiret que François, c'est tout accroché maintenant. Alors donc la société éditrice du site François, c'est Shopper Union, a perdu toutes ses demandes contre Google.
Yes.
Puisque le tribunal de commerce de Paris a débouté Shopper Union, qui reprochait à Google de lui avoir coupé la publicité et de ne plus référencer son service dans Google Actualité.
Voilà.
Entre autres. Voilà. Et puis, vous savez, Google avait aussi, via YouTube, coupé aussi le site François, qui n'avait donc plus accès à YouTube. Donc, c'est un jugement qui a été rendu le 6 septembre dernier. Alors, Shopper Union disait qu'il y avait un manque à gagner de 3 600 000 euros. Sauf que le tribunal a décidé que Google était dans son bon droit, puisqu'il y avait des règles d'utilisation que Shopper Union avait clairement enfreint et que du coup Google était absolument dans son droit. Alors
on a du mal à être du côté de Google, mais là pour une fois oui.
Bah ouais, voilà, donc là du côté de François on dit qu'il y a une liberté d'expression, que c'était leur image, qu'il peut y avoir la rédaction et le rédactionnel qu'ils souhaitent et qu'elles souhaitent. Alors bon, on rappelle aussi qu'il n'y a plus de journalistes à François, juste comme ça on le dit.
Voilà. La liberté d'expression, pour eux, c'est la liberté de mentir et de donner des fausses informations systématiquement.
Oui, voilà. Alors, le tribunal a dit le droit à la liberté d'expression d'un éditeur n'est pas supérieur au droit à la liberté d'une plateforme d'édicter des règles pour garantir l'image et la qualité de son service ainsi que la conformité de son objet. Donc, c'est-à-dire que c'est en fait le droit de Google, c'est-à-dire son droit commercial, d'appliquer des règles qui ont fait taire François. Alors, ce qui est Ouais, on a du mal à soutenir Google dans ces cas-là, mais voilà, comme ouais. ça tape sur François, ça nous arrange en ce cas-là. C'est mal, hein, je sais, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? De temps en temps, il faut prendre le plaisir là où il est. Alors, en plus de ça, Shopper Union a été condamné à payer 70 000 euros à Google au titre des frais engagés par le groupe pour sa défense.
Yes.
Voilà, voilà. Alors, le problème, c'est que François a toujours beaucoup de pognon, hein, il faut le savoir, puisqu'il y a de l'argent qui est récolté via la plateforme Tipeee. Alors, Tipeee a été accusé plusieurs fois de donner la parole et de l'espace à des groupes complotistes.
Ou des anti-vax, ouais.
Rien n'a pété.
Ils pensent qu'à l'argent, eux.
Ah ouais, alors, globalement, hein, puisque je vous rappelle qu'à chaque don que vous faites, ils récupèrent un peu des sous. Et puis surtout, il y a une association qui est liée au site d'extrême droite présent qui permet de récupérer des dons défiscalisés. Ça aussi, c'est hyper chouette. Et donc, ce qui permet à Shopper Union de récolter suffisamment d'argent pour pouvoir continuer à vivre et à faire vivre son site. Et surtout, j'imagine, les gens qui alimentent.
Sa propagande.
Voilà. Merci, j'allais dire une horreur insultante. Alors, le truc, c'est que, vous savez peut-être, mais c'est toujours présent sur Twitter et Facebook, un groupe que nous saluons. Coucou, Mark Zuckerberg. Voilà, qui lui a strictement rien à foutre aussi.
Bah pourtant, il coupe des trucs d'excès, fausse information.
Ah ouais, il coupe surtout quand il y a des seins.
Ben voilà,
et des tétons.
Ouais, ouais.
Parce que si t'enlèves le téton au sein, en général, ça marche encore. Mais comme nous, les femmes, on a quand même du sein et des tétons. En général, hein, voilà. Malgré tout, François garde une audience extrêmement importante et c'est bien ça le problème. Il trouve des relais en plus sur les réseaux sociaux. On attend donc que Mark Zuckerberg se bouge un jour les fesses.
Eh ben voilà, il est 19h59, passé de 55 secondes. Le Canu Info de cette semaine est terminé.
On va se retrouver la semaine prochaine.
Alors ça dépendra de toi, mais pas de moi.
Ah mince.
Oui.
Ça y est, ça commence.
Eh ben, c'est le travail m'emmène loin.
Ah oh, là 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 là.
Donc je ne serai pas là. Alors si tu trouves un camarade pour t'accompagner ou une camarade, il y aura le Canu Info du jeudi.
Voilà, on vous rappelle que vous avez les bandes continues musicales sur Radio Canu, qu'il y a plein d'émissions, vous pouvez les réécouter en passant par les blogs de Radio Canu. Hein, vous allez sur le site internet et puis après plop 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 vous appuyez et puis vous retrouvez les émissions qui sont enregistrées par les animateurs et les animatrices, si ils et elles le souhaitent, évidemment. Que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, un jour venir faire une émission à Radio Canu. Vous savez, on est tous et toutes bénévoles et on n'est pas des experts et des expertes. Hein, ça s'entend de temps en temps quand même. Nous ne sommes pas journalistes et donc vous pouvez tout à fait un jour venir un mardi, ça va reprendre, où vous pouvez rencontrer l'équipe de la programmation et proposer des maquettes et puis un jour faire une émission voilà. Comme nous.
Le mardi à 19h.
Voilà.
On se retrouve donc très bientôt et on vous laisse en compagnie des bandes continues, les fameuses bandes continues de la plus rebelle des radios.
Ciao, ciao.
Enfin, je dis ça, là, il n'y a pas de son.
Et ben, voilà.
Ah oui.
Ah, je vais continuer à faire ouh, alors.
Ouais, tu vas continuer de parler.
Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, je vous disais, vous pouvez faire donc des émissions, comme ça, je peux en parler un peu plus. Une émission musicale, de parlotte, d'analyse, de tout ce que vous voulez comme sujet. Vous venez, vous les présentez. Vous pouvez évidemment, c'est mieux de venir avec une petite maquette, même si elle n'est pas parfaite. C'est pas grave, on s'améliore avec le temps. Il n'y a pas besoin d'être des génies radiophoniques pour commencer et débuter à Radio Canu. On vous laisse avec la musique.
Elle est là, il y a eu un petit déréglage, je ne sais pas pourquoi, mais c'est revenu.